Et pour commencer, Marion s'est intéressée au fonctionnement de la primaire populaire. On l'écoute.
Aujourd'hui, je reçois Romane et François, tous deux membres de l'équipe locale de la primaire populaire à Rennes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ensemble, on va évoquer le vote d'investiture prévu par la primaire populaire entre le 27 et le 30 janvier 2022. Un vote censé désigner une personnalité unique à gauche pour représenter la gauche à la prochaine élection présidentielle. Pour résumer, la primaire populaire est une initiative citoyenne menée par des militants et militantes indépendantes. À Rennes, vous êtes plus de 80 bénévoles engagés, dont vous, Romane et François. Et j'avais une première question. La primaire populaire réunit au sein d'un même vote des personnalités issues de différents partis, du PS à la France Insoumise, en passant par les écologistes. Alors pour vous, quelles sont les valeurs universelles qui représentent la gauche et surtout quelles sont celles qui vous ont amené à vous engager ?
Alors, effectivement, la primaire populaire, ça représente les valeurs de la gauche et de l'écologie. Je crois que c'est vraiment important, ouais. C'est de relier à la fois les enjeux sociaux et les enjeux climatiques. On l'a bien vu, c'est vraiment ces dernières années avec les marches climat qui rejoignaient les marches voilà, pour les justices sociales, la Convention citoyenne pour le climat qui a bien montré à quel point tout ça était relié. Et moi, en ce qui me concerne, vraiment, ces valeurs-là, je les ai en moi depuis toujours, sans doute familialement, hein, par des transmissions. Et puis aussi par ce que je suis, mon métier de professionnelle de santé, où je vois bien à quel point la santé est tellement reliée à la fois à ce qui se passe au niveau social, les conditions dans lesquelles les gens travaillent, sont rémunérés, sont reconnus, et tout ce qui participe à la santé mentale, émotionnelle, mais aussi comment l'environnement impacte la santé. Et finalement, tous ces enjeux-là sont extrêmement reliés. Edgar Morin le dit, d'autres gens le disent. Et pour moi, c'était extrêmement logique, effectivement, d'arriver à la primaire populaire, parce que c'est un mouvement citoyen. C'est des gens, effectivement, qui à un moment se sont réunis pour dire bah, on va essayer ensemble de faire valoir que ces valeurs-là sont extrêmement importantes à être portées et qu'elles soient représentées et que tout le monde puisse en emparer à travers des institutions qui permettent aux gens vraiment d'avoir un impact sur leur vie quotidienne.
Oui, je voudrais rajouter un tout petit truc. Il y a la justice écologique, la justice sociale et également la démocratie. On voit bien que la démocratie, c'est quelque chose qui a tendance à diminuer dans la Ve République depuis un certain temps. Et cette diminution s'accélère. Et là, c'est vraiment pouvoir permettre à tout le monde de s'exprimer sans aucun parti, enfin, sans pouvoir les empêcher, voilà, avoir vraiment la liberté d'expression et de pouvoir se faire écouter.
Et on parle donc d'unir la gauche, mais ces différents partis, que ce soit le PS, les écologistes ou la France insoumise, défendent des idées aussi qui sont parfois différentes. Avec tous ces partis, en les réunissant, qu'est-ce que vous voulez porter ?
Vraiment les valeurs de justice sociale, le renouveau démocratique, hein, ça fait vraiment partie des fortes propositions qui ont été promues dès le départ de la primaire populaire et qui sont dans le socle commun dont on parlera tout à l'heure. Et la défense de l'environnement, bien sûr, hein, à travers, entre autres, reprendre toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et cette idée aussi que, en fait, chacune de nous peut agir sur ce qui se passe aujourd'hui et avoir peut-être une autre... enfin, prendre conscience qu'on a tous un impact sur la direction que nos sociétés peuvent prendre. Hein. Je me remémore ce qu'a dit une personne qui est intervenue au tout début de la Convention citoyenne pour le climat et qui a dit finalement, avant de réfléchir à tout ce qu'on veut mettre en place techniquement dans les programmes, etc., peut-être faut vraiment que collectivement on se dise mais dans quel monde on veut vivre. Et effectivement, c'est plutôt un monde plus de coopération, de solidarité, de prendre soin, de pleine santé. Hein. Je pense à Éloi Laurent, économiste, hein, qui dit finalement si on prenait le critère espérance de vie, qualité de vie plutôt que croissance pour penser le déploiement de nos sociétés, on aurait des vies beaucoup plus... voilà. Donc c'est ces valeurs-là qui sont défendues et qui sont portées par la primaire populaire. Et, voilà, ouais.
Et on va maintenant retracer le processus de la primaire populaire. Au terme d'une campagne de parrainage entre juillet et octobre, 10 personnalités ont été sélectionnées par 130 000 personnes inscrites sur la plateforme primaire populaire. Alors, qui sont ces personnalités choisies? D'où viennent-elles? De partis politiques, de la société civile?
Eh bien, en fait, ces 10 personnes venaient de la société civile. Donc, il y a eu, bien sûr, des têtes de liste de partis, comme Mélenchon, comme Jadot, comme Hidalgo. Il y a eu également des personnes qui n'étaient pas candidates, qui étaient dans des partis, mais sans être candidats à la présidentielle à ce moment-là, qui étaient François Ruffin, Clémentine Autain. Et puis, il y avait des personnes qui étaient vraiment de la société civile, qui se sont déclarées candidates ou candidats à la présidentielle, comme Charlotte Marchandise et Pierre Larouturu.
Et Anna Agueb Portery, c'est une jeune activiste climat. Voilà.
Donc ces 10 personnes-là, ces 10 personnalités ont été sélectionnées au terme donc d'un parrainage. Il fallait avoir 500 signatures pour être parrainé. Et ensuite, ceux qui ont eu le plus de parrainage par la suite ont été gardés pour faire partie d'une réelle primaire, où tous les gens qui avaient signé et qui se réinscrivaient pour voter à la primaire, pouvaient choisir un candidat unique pour la gauche.
Et ensuite, ces personnalités devaient se déclarer favorables ou non à un vote d'investiture avant le 30 novembre. Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon ont choisi de ne pas adresser de réponse catégorique. Ainsi, du 27 au 30 janvier prochain, pour le vote d'investiture, il a été décidé que les électeurs et électrices pourront désigner la personnalité candidate de leur choix afin de porter la gauche à la présidentielle. Les 300 000 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme primaire populaire voteront en un tour au jugement majoritaire. Pouvez-vous nous expliquer comment cela fonctionne et pourquoi, d'après vous, s'agit-il de la méthode la plus juste?
Alors, déjà, je précise que les personnes qui sont déjà inscrites, qui avaient déjà signé l'appel, doivent se réinscrire. Et des gens qui n'avaient pas encore signé l'appel peuvent toujours s'inscrire pour voter dans ce processus donc de désignation d'une personnalité pour représenter la gauche, une personnalité qui représenterait la gauche à elle seule. Le jugement majoritaire, le gros intérêt du jugement majoritaire, c'est qu'on évite l'exclusion. C'est-à-dire que le vote actuel, par exemple pour la présidentielle, c'est un vote où on va désigner, on va dire oui ou non pour une personne. Et en fait, très souvent, on se rend compte qu'au lieu de voter pour quelqu'un, on vote contre d'autres personnes. Malheureusement, c'est un petit peu ce qu'on voit actuellement quand on voit qu'on a du mal à avoir une seule personnalité pour représenter la gauche. Donc l'idée, c'est d'éviter ce processus d'exclusion et au contraire d'avoir un processus de rassemblement en montrant que la majorité des gens sont d'accord ou préfèrent une personne à une autre. Mais il s'agit bien de préférer et pas d'exclure. Donc on va mettre en jugement sur chaque personne. Donc on est obligé de mettre en jugement sur chacune des personnes qui se présentent. Donc s'il y a 7 candidats, par exemple, enfin 7 personnalités, il y aura 7 jugements pour chaque votant. Et sur ces jugements, il y a « je le veux absolument » ou jusqu'à « je n'en veux pas ». »« Je ne veux pas qu'il passe ». Entre les deux, il y a « je l'aime bien », bon voilà, etc. Et l'idée, ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va supprimer la moitié des jugements qui sont négatifs. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement, bon, on sait que n'importe qui est relativement malin, et s'il y a un vote comme ça, on peut imaginer que des personnes se disent « moi je vais mettre le maximum à une personne et le minimum à tous les autres ». Donc ça revient à éliminer en fait les autres candidats. La personne qui joue ça, eh bien, elle a tout faux, puisque ses notes minimales sont éliminées par la suite. Et on se rend compte ainsi que, bah, effectivement, il y a quelqu'un qui va être majoritaire, qui va avoir le plus de consensus, mais il y aura les personnes qui seront derrière lui seront également très proches, et il faudra se rassembler, il devra se rassembler avec toutes ces personnes pour satisfaire la population. Alors, ce qui s'est passé en 2017, c'est M. Macron qui dit « bien moi j'ai été élu par les Français ». Et en fait, quand on regarde le premier tour, il n'a que 22%, je ne sais même pas si c'est 22%, des votants. Donc c'est pas du tout, c'est à peine 15% des électeurs. Et avec ces 15% d'électeurs, il peut se permettre, par le vote actuel, de dire « je représente tous les Français ». Avec le jugement majoritaire, c'est pas possible.
Et j'avais une question, alors vous y avez un peu répondu, mais pour les personnes qui vont voter, comment peut-on vérifier leurs intentions? Parce que ça peut être, paraître simple pour les opposants ou les opposantes de s'immiscer dans le vote pour fausser le résultat. Justement, est-ce que le jugement majoritaire permet d'empêcher cela?
Bien, un petit peu par le fait qu'on écrète, je dirais, la moitié supérieure des réponses. Donc effectivement, quelqu'un qui jouait le jeu, que je disais tout de suite, de vouloir éliminer en mettant en mauvais jugement, un jugement négatif à des personnes, ce jugement négatif n'est pas pris en compte. Donc on évite d'avoir ce biais-là, qui est assez connu dans tous les systèmes de vote. Quoi.
Juste pour compléter, effectivement, ce mode de vote a été mis au point par deux chercheurs, deux mathématiciens, ouais, en 2002. Et effectivement, ça s'avère être, a priori en tout cas pour le moment, le mode de désignation qui reflète le plus, le mieux, la richesse et la variété de l'opinion publique. Hein, en prenant effectivement la médiane la plus favorable pour tous les candidats, ça donne vraiment une photo de ce que les gens pensent de l'ensemble des candidats et surtout ça élimine personne. Quoi. Alors évidemment, c'est la personne qui aura reçu la médiane la plus élevée, la plus fréquente, enfin le plus grand nombre de médianes élevées, la médiane la plus élevée qui remportera l'élection. Mais ça permet vraiment d'avoir une belle photo de ce que pensent les gens qui ont voté de l'ensemble des candidats.
Et c'est le 15 janvier que la liste des personnalités soumises au vote sera publiée. On le sait déjà, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ne sont pas favorables à ce processus, mais seront bien sur la liste. Or, ils sont déjà lancés dans la course à la présidentielle. Alors, sans leur adhésion, comment pouvez-vous imaginer la gauche réunifiée?
Voilà, ouais, c'est vrai que c'est tout l'enjeu. Hein. Effectivement, là, maintenant, aujourd'hui, c'est un processus d'investiture. Effectivement, ce n'est plus une primaire, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo et Yannick Jadot n'ont pas répondu oui à la proposition. Et en fait, effectivement, le 15 janvier sera publiée la liste des 10 personnalités qui, d'une part, sont officiellement candidates à l'investiture pour la présidentielle et d'autre part qui s'engagent très formellement à mettre en place les 10 propositions du socle commun qui portent la primaire populaire. On est effectivement dans un chamboulement un peu des étapes prévues par la primaire populaire. Qu'est-ce qui va se passer après le 15 janvier? On n'en sait rien. On ne sait pas si peut-être que Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, en voyant à quel point on est nombreux à demander vraiment cette union de tous ces gens qui portent des valeurs qui nous rassemblent, même s'il y a des petits points de divergence sur les programmes. En fait, si on prenait vraiment les 10 propositions phares, si on demandait à chaque parti de donner les 10 propositions phares, on verrait que ça coïnciderait évidemment avec le socle commun qui a en partie été élaboré avec des gens aussi de ces partis-là. Donc on verra bien en fait. C'est difficile de dire aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer. Clairement, la liste qui va être publiée le 15 janvier, il va y avoir 15 jours, la fin de l'inscription au vote c'est le 23 janvier. Donc il va y avoir 8 jours pour voir comment ils se positionnent en fonction du nombre de gens qui se sont inscrits pour participer au vote. Je pense que ça, ça va être déterminant. C'est aussi pour ça que finalement, enfin, c'est important qu'il y ait un maximum de gens qui s'inscrivent au vote de la primaire populaire si vraiment ce processus les intéresse pour qu'on comprenne qu'en fait, on peut y aller que tous ensemble, quoi. Et qu'effectivement, les partis ont une histoire, ont une raison d'être. Peut-être qu'on a un tournant, effectivement, au niveau démocratique et qu'il est temps de passer à autre chose.
Donc une fois que cette personne désignée justement par les votants et votantes à la primaire populaire, une fois que cette personne sera désignée, vous allez contribuer à sa campagne et soutenir son programme. Mais avec quelles étiquettes allez-vous tenter de faire élire la personnalité désignée? Est-ce que vous voulez sortir des partis politiques?
Ouais, clairement. Enfin, en tout cas... Clairement, les beaucoup de personnes qui sont à la primaire populaire, il y en a forcément qui sont soutien de Yannick Jadot, de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, parce que forcément, puisqu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ces valeurs-là, mais il y a aussi beaucoup d'abstentionnistes et de gens qui étaient dans des mouvements climat, des mouvements sociaux, des mouvements antiracistes, féministes, etc., qui sont pas du tout encartés et qui veulent surtout pas l'être. Et moi, par exemple, j'en fais partie, je me sens vraiment totalement apartisane. Ce qui m'intéresse, c'est que les 10 propositions du socle commun et que ces valeurs écologiques, sociales, démocratiques soient représentées. Ouais, j'ai envie de dire, faut peut-être sortir de l'étiquette parti à un moment et se dire juste qu'en fait, on a un projet de société en commun et qu'on y va ensemble, quoi.
Et puis, je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'il y a la présidentielle, mais il ne faut pas oublier que quelques semaines après, il y aura les législatives. Mmh. Et là, c'est clair que si aux législatives, on retrouve le même nombre de candidats que ce qu'on a actuellement pour la présidentielle, je dirais que c'est fichu, puisqu'on n'aura pas suffisamment d'élus de gauche, d'élus avec sur des valeurs de gauche, pour gagner dans le Parlement. Et là, on sait très bien que ça ne marchera pas. Donc c'est aussi la primaire populaire, c'est aussi un processus pour agglomérer toutes les bonnes volontés humanistes, de façon à avoir des candidats communs aux législatives, de façon à avoir un Parlement qui aille dans le bon sens. Parce que c'est clair que si on se retrouve avec un président de gauche, ce qui serait quand même très chouette, mais en Parlement de droite derrière, il y aura un certain problème, quoi.
Et vous l'avez dit tout à l'heure, le programme que vous allez soutenir doit intégrer le socle commun qui défend une république écologique, sociale et démocratique. Alors en quelques mots, qu'est-ce que le socle commun et quels sont les points phares ?
Alors, le socle commun, effectivement, il y a trois volets, un volet social, un volet écologique, un volet démocratique. Il a été vraiment rédigé par 250 personnes issues de différents mouvements, tels que je les ai décrits tout à l'heure, hein, écologistes, sociaux, féministes, antiracistes, des entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, des gens qui travaillent sur la démocratie ouverte, tous élus, etc. Et dans les projets phares, il y a vraiment l'accès pour toutes et tous à l'alimentation saine et à une agriculture saine, donc ce qu'on appelle une forme de sécurité alimentaire, hein. Un volume minimum gratuit, eau plus énergie, avec une progressivité des tarifs selon les revenus. Un investissement dans les systèmes hospitaliers de soins qui soit à la hauteur des besoins. Et avec sans doute une réflexion à mener aussi sur la santé. Hein, on discutait par exemple avec quelqu'un, pourquoi pas pour, imaginer une convention citoyenne de la santé qui redéfinisse ce que c'est que la pleine santé. C'est un peu mon dada, hein, je suis professionnelle de santé. Mais... Et côté démocratie, initier une convention citoyenne pour le renouveau démocratique, de manière à effectivement... passer progressivement à une forme de sixième république où les pouvoirs présidentiels et députés soient équilibrés par des pouvoirs citoyens qui bénéficient d'institutions, les citoyens bénéficiant de temps, hein, de formation, d'information, et que ce soit des assemblées délibératives de manière à ce que vraiment les problèmes de société soient pris en compte réellement. Voilà. Il y a en autre projet phare, hein, garantie du respect des droits fondamentaux au niveau de la justice, hein, en particulier avec la formation, la prévention des violences sexistes et racistes. Voilà. On peut aller voir vraiment le détail. Il y a un PDF de 32 pages sur le site de la primaire populaire pour avoir vraiment le détail de toutes ces mesures.
Ces 10 propositions ne sont pas sorties de nulle part. Elles ont été établies en avril 2021. Donc il y a eu un processus en 2020 pour démarrer cette primaire populaire, pour réfléchir à comment faire pour avoir un candidat unique à gauche en 2022. Et ce socle commun a été élaboré avec des discussions avec tous les partis, avec des responsables de tous les partis de gauche, pour réfléchir à ce socle commun qui représente vraiment toutes les personnes et tous les partis qui se disent à gauche ou qui sont à gauche. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui a été élaboré, pas par la primaire populaire en tant que telle, mais par des personnalités des partis et puis par des représentants de la société civile, comme l'a dit Romane. Ouais.
Je pense que ça donne un aperçu des idées principales du socle commun. Et maintenant, je voulais qu'on s'intéresse un peu à l'antenne de la primaire populaire sur Rennes. L'équipe locale s'est formée après un week-end de formation et de structuration cet automne. Et ensemble, vous vous êtes coordonnés pour mener des actions sur le terrain, notamment ce samedi 15 janvier avec un rassemblement. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Sur le rassemblement ?
Sur le rassemblement,
ouais, sur le rassemblement du 15 janvier, ouais. Oui. Alors, il va avoir lieu dans toute la France, hein, dans, je ne sais pas, au moins 40 villes en France. Et c'est vraiment la journée où la liste des personnalités qui sera soutenue par la primaire populaire et qui participera au vote d'investiture fin janvier sera publiée. Et donc, il va y avoir des points d'information et de documentation sur la primaire populaire et la présentation de cette liste de personnalités et donc et des points d'accueil des gens pour les aider à s'inscrire au vote, qui se fait en trois étapes et qui voilà, peut être pour certaines personnes peut nécessiter d'un peu d'accompagnement voilà, le 15 janvier pour accueillir toutes les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur la primaire populaire.
Très bien. Et cette antenne locale se fait l'écho de la primaire populaire. Et je me demandais de manière générale, comment agissez-vous en accord avec le mouvement national ?
Alors, il y a une coordination des groupes locaux. Il y a avec des propositions de, je dirais, un peu de logistique, comment nous organiser et des propositions de mobilisation qui sont appuyées sur l'expérience de gens qui ont déjà fait ce genre de mobilisation aux États-Unis, hein, Clément Perrault, qui est un des grands initiateurs de tout ce qui est mobilisation citoyenne. Donc, on a cet appui-là. Après, nous, on a aussi notre créativité, nos initiatives. Par exemple, on a organisé une conférence avec Marc Dufumier, qui est un agronome qui a beaucoup parlé de la sécurité alimentaire et qui est venu parler de voilà, on l'a invité pour venir parler en tant que soutien de la primaire populaire de ce pilier du socle commun qui est important, la sécurité alimentaire et une alimentation saine pour toutes. On a organisé parce que un débat au cinéma l'Arvor sur le film La Fracture pour parler un peu des enjeux, justement de la complexité des enjeux sociaux, démocratiques, écologiques. Voilà, et puis sinon, on fait des mobilisations de type aller voir les gens dans les marchés, tenir ce qu'on appelle des points pop à différents endroits dans Rennes et participer à des manifestations comme la marche climat ou la marche pour les mouvements féministes qui a eu lieu il y a quelques temps. Voilà.
Merci à vous pour cet éclaircissement sur la primaire populaire et son fonctionnement à l'échelle nationale et locale.
Merci aussi à toi, Marion.
Merci beaucoup, oui.
Et pour apporter une précision, on vous informe que le rassemblement de la primaire populaire est prévu à Rennes ce samedi 15 janvier, place de la République, à 14h. Merci beaucoup à Marion et merci à Romane et François.